à travers les siècles et les civilisations. C'est cela que le peuple d'Israël doit acquérir, que finalement cette promesse qui a été faite, bien qu'elle soit différée jusqu'à la fin des temps, à cause de cette faiblesse de la foi, que cette promesse peut s'accomplir. Je pense que c'est suffisamment clair. Kemo she'asa le'Mitzrayim, comme il l'a fait à l'Égypte, min makot agdolot vanoraot, avec les plaies grandes et redoutables, ve'atova she'asa le'ohava, avec le bien qu'il a fait pour ceux qu'il aime, ou kemo she'mashma min hakatuv, comme cela s'entend du verset, she'kol asher hayah oseh hu yidbarach, que tout ce que lui, Dieu, faisait, c'était afin que, she'yed'u she'mo gvurato, qu'il connaisse son nom et sa vaillance, tamid, toujours. Vous vous rappelez de la référence, j'en ai aussi parlé hier soir, à la sortie d'Égypte comme la preuve de la foi, comme le fondement de la foi. Vous vous rappelez de cela. Et l'importance que cette expression, Zecher l'Itziat Mitzrayim, prend dans toute la liturgie. Comment savons-nous que c'est vrai que Dieu existe, la sortie d'Égypte? Alors que dans n'importe quelle tradition, je vous renvoie encore aux Kuzari Juda Lévi, dans n'importe quelle tradition, on commencera à nous faire des raisonnements théologiques. L'évidence de la preuve par l'horloger, que cette horloge, qu'est le monde, un horloger, etc. Vous rappelez, je parlais une fois de cela. Et la tradition juive s'oppose à toutes ces démonstrations par le raisonnement de l'existence de Dieu, parce que ça ne convainc que les convaincus. C'est-à-dire, ce sont des raisonnements d'exposition de celui qui est informé, d'autre part, de quoi il parle, et que la preuve, non pas le raisonnement, la preuve, c'est l'événement de la sortie d'Égypte. Et pour ça, il faut l'étudier en détail dans le Kuzari de Juda Lévi, je disais à l'époque en parlant de Voltaire, c'est que jamais le Dieu de Voltaire n'a parlé à Voltaire. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Par conséquent, tout ça, c'est du temps perdu. Mais le Dieu d'Israël a parlé à Israël, c'est autre chose. Et donc, jusqu'à la sortie d'Égypte, on savait, par connaissance de vérité, qu'il y avait un créateur. Mais c'est devenu réel au moment de la sortie d'Égypte. Et c'est pourquoi vous avez toujours ce parallèle de ces deux expressions. Zecher l'Itziat Mitzrayim, Zecher le Maaseh Bereshit. Les deux significations du Shabbat. La création du monde, la sortie d'Égypte. Toujours pour les mitzvot, vous avez ces deux références. Mais là, et ça vous expliquera pourquoi il y aura toujours deux écoles dans la théologie juive. Une, par exemple, Maïmonide comme chef de file, qui mettront l'accent sur l'évidence du Créateur. L'autre, avec Juda Lévi comme chef de file, qui mettront l'accent sur l'évidence de la sortie d'Égypte. Et je crois que nous sommes dans un temps où la communauté juive vit beaucoup plus à l'heure de Juda Lévi qu'à l'heure de Maïmonide, tout simplement parce qu'il faut être un grand spécialiste de théologie philosophique pour suivre les raisonnements de Maïmonide, alors qu'il suffit d'être un juif, de l'histoire juive, pour comprendre Juda Lévi. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. Oufichach, et c'est pourquoi, Sauver Rabbi Abahu, alors là il entre dans les explications de détail, Rabbi Abahu pense Shenira be'Abraham, Sheloaya poteach b'Hashem legamre. Qu'il apparaît en Abraham qu'Abraham n'avait pas suffisamment, complètement legamre, confiance dans ce que Dieu lui dit. Encore une fois, je nuance, c'est pas qu'il n'a pas confiance en Dieu, il n'a pas confiance que ça s'accomplira, parce qu'il manque de confiance en lui. Vous vous rappelez de ça? Sheare asan garia betalmid chami, puisqu'il a mobilisé les étudiants de la Torah. Vous rappelez, je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, lorsqu'il y a eu l'intervention d'Abraham dans la guerre des rois pour sauver Lot qui se trouvait à Sodome. Et le texte dit qu'Abraham a emmené avec lui pour intervenir dans la guerre, non pas des soldats de métier, mais ses propres élèves. Et le raisonnement étant, il a pensé qu'il fallait un mérite supplémentaire de tzadikim pour gagner cette guerre. Et Dieu lui répond que ce n'était pas nécessaire parce que son mérite à lui était suffisant. Encore une fois, je voudrais revenir là-dessus, parce que chaque fois ça me frappe. C'est cette espèce de hypertrophie d'une vertu qui, parce qu'elle est hypertrophiée, devient un défaut. C'est cela qu'il faut découvrir. Sheare Hassan Garia Betamid Khamim, puisqu'il a mobilisé des étudiants de la Torah, Ul Kaham la Milchama Mihirato, et il les a pris pour la guerre à cause de sa crainte S'il avait pris des hommes pour qui il est normal de faire la guerre, Raoul la Milchama, je sais pas comment traduire ça, je voudrais préciser plus, convenable à la guerre, homogène à la guerre, enfin des soldats, dans le sens hegelien.
Des guerriers ?
Non, pas des guerriers. Des hommes pour qui ça va de faire la guerre. Mais quelqu'un qui est dans l'étude, ça lui va pas de faire la guerre. Enzechet, ça serait pas été une faute de prendre des gens Raoul la Milchama. Chez En, son primaranès, puisqu'on n'a pas le droit de compter sur un miracle. Abraham ne peut pas arriver sur le champ de bataille et dire « C'est moi, Abraham, donne-moi la victoire. » Il faut qu'il ait une armée. Mais pourquoi une armée de Talmidei Chachamim ? C'est ça que le Maharal met en évidence. Vous avez compris le... Abraham, la carte Talmidei Chachamim, mais il a pris des étudiants de la Torah. Moré chez Ouyare, ça montrait qu'il avait peur. Ben, il y a l'olitoar, beau. Or, il aurait dû avoir confiance en Dieu, Boïd Barar. Et ne pas prendre pour la guerre ceux qui n'étaient pas donnés à la guerre. Ça veut dire, encore une fois, scrupule exagéré. Peut-être je n'ai pas assez de mérite. J'ai peur que la promesse ne s'accomplisse pas parce que je n'ai pas assez de mérite. Je vais essayer de colmater ce manque de mérite. Là, ça dévoile que cette exagération de la vertu est en réalité une faille de la foi. Je pense que déjà nous sommes en plein dans la réponse du Maharal. Et peut-être que l'exemple que je donnerai, un de ce que j'ai étudié en psychologie, est assez évident. C'est parce que c'est une conduite qui est très proche de la conduite de foi, c'est la conduite de la modestie. Quelqu'un qui est modeste de façon exagérée, c'est sûr que c'est un orgueilleux. Vous avez compris cela ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Et provoquer. Oui, oui. Très bien. Exactement. C'est ce que j'allais dire. Exactement. Et par conséquent, provoquer la chute du gouvernement parce que les libéraux ne voteront pas avec la Goudat Israël. Oui, c'est le problème. Okay. Alors, je reviens à l'analyse, mais nous l'avons eu avant-hier, ou il y a 3 jours. C'est ceci. Ça dépend du genre de guerre. Si c'est les guerres de défense de l'existence d'Israël, il faut mettre les Talmidei Chachamim en première ligne. Parce que seuls les justes ont le droit de faire ces guerres-là. Et c'est le problème de la guerre, on en parlera peut-être un jour. La manière dont un soldat en guerre est jugé, c'était un jugement spécial. Et alors, s'il s'agit donc des guerres de l'existence d'Israël, la Gemara a tranché. Elle dit tout le monde, et on sort le fiancé et la fiancée de dessous le dénuptial, de dessous l'arpa. Et on leur donne, aujourd'hui on dirait une mitraillette, en ce temps-là c'était une arbalète, mais ça revient. Mais non, s'il s'agit effectivement de guerre qu'on peut gagner avec des soldats de métier, parce que c'est pas nécessaire que ce soit des guerres des justes, puisque c'est pas les guerres de l'existence, alors là on n'a pas le droit d'enlever quelqu'un de l'étude de la Torah pour l'envoyer faire des milouis. Il fait ses milouïm à la yeshiva. Vous comprenez ? C'est clair. Et c'est pourquoi il y a 2 positions dans les milieux religieux en Israël. Ceux qui ne reconnaissent pas l'État d'Israël et qui ne veulent faire à travers les siècles et les civilisations, c'est cela que le peuple d'Israël doit acquérir. Que finalement, cette promesse qui a été faite, bien qu'elle soit différée jusqu'à la fin des temps, à cause de cette faiblesse de la foi, que cette promesse peut s'accomplir. Je pense que c'est suffisamment clair. Kemo she'asa le'Mitzrayim, comme il l'a fait à l'Égypte, min makot agdolot vanoraot, avec les plaies grandes et redoutables, ve'atova she'asa le'ohava, avec le bien qu'il a fait pour ceux qu'il aime, ou kemo she'mashma min hakatuv, comme cela s'entend du verset, she'kol asher haya oseh, hu yidbarach, que tout ce que lui, Dieu, faisait, c'était afin que, chez Yedon, chez Mouburato, qu'il connaisse son nom et sa vaillance, Tamid, toujours. Vous vous rappelez de la référence, j'en ai aussi parlé hier soir, à la sortie d'Égypte comme la preuve de la foi, comme le fondement de la foi. Vous vous rappelez de ça. Et l'importance que cette expression, Zecher Litziat Mitzrayim, prend dans toute la liturgie. comment savons-nous que c'est vrai que Dieu existe, la sortie d'Égypte? Alors que dans n'importe quelle tradition, je vous renvoie encore aux habitudes à Lévi, dans n'importe quelle tradition, on commencera à nous faire des raisonnements théologiques. L'évidence de la preuve par l'horloger, que cette horloge, qu'est le monde, un horloger, etc. Vous rappelez, je parlais une fois de cela. Et la tradition juive s'oppose à toutes ces démonstrations par le raisonnement de l'existence de Dieu, parce que ça ne convainc que les convaincus, c'est-à-dire ce sont des raisonnements d'exposition de celui qui est informé d'autre part de quoi il parle, et que la preuve, et non pas le raisonnement, la preuve, c'est l'événement de la sortie d'Égypte. C'est pour ça qu'il faut l'étudier en détail dans le Kuzari de Judas Lévi, je disais à l'époque en parlant de Voltaire, c'est que jamais le Dieu de Voltaire n'a parlé à Voltaire. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Par conséquent, tout ça, c'est du temps perdu. Mais le Dieu d'Israël a parlé à Israël, c'est autre chose. Et donc, jusqu'à la sortie d'Égypte, on savait, par connaissance de vérité, qu'il y avait un créateur. Et c'est devenu réel au moment de la sortie d'Égypte. Et c'est pourquoi vous avez toujours ce parallèle de ces deux expressions. Zecher, Yitziat Mitzrayim, Zecher, le Maaseh Bereshit. Les deux significations du Shabbat. La création du monde, la sortie d'Égypte. Toujours pour les mitzvot, vous avez ces deux références. Mais là, et ça vous expliquera pourquoi il y aura toujours deux écoles dans la théologie juive. Une, par exemple, Maïmonide comme chef de file, qui mettront l'accent sur l'évidence du Créateur. L'autre, avec Judas Lévi comme chef de file, qui mettront l'accent sur l'évidence de la sortie d'Égypte. Et je crois que nous sommes dans un temps où la communauté juive vit beaucoup plus à l'heure de Judas Lévi qu'à l'heure de Maïmonide, tout simplement parce qu'il faut être un grand spécialiste de théologie philosophique pour suivre les raisonnements de Maïmonide, alors qu'il suffit d'être un juif, de l'histoire juive, pour comprendre Judas Lévi. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. Ulfichach, et c'est pourquoi, Sauver Rabbi Abahu, alors là il entre dans les explications de détail, Rabbi Abahu pense, Shenira be Abraham, Sheloaya poteach bashem le gamre, qu'il apparaît en Abraham qu'Abraham n'avait pas suffisamment, complètement le gamre, confiance dans ce que Dieu lui dit. Encore une fois, je nuance, c'est pas qu'il n'a pas confiance en Dieu, il n'a pas confiance que ça s'accomplira, parce qu'il manque de confiance en lui. Vous vous rappelez de ça. Shehare asan garia betalmid chani, puisqu'il a mobilisé les étudiants de la Torah. Vous rappelez, je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, lorsqu'il y a eu l'intervention d'Abraham dans la guerre des rois pour sauver Lot qui se trouvait à Sodome. Et le texte dit qu'Abraham a emmené avec lui pour intervenir dans la guerre, non pas des soldats de métier, mais ses propres élèves. Et le raisonnement étant, il a pensé qu'il fallait un mérite supplémentaire de tzadikim pour gagner cette guerre. Et Dieu lui répond que ce n'était pas nécessaire parce que son mérite à lui était suffisant. Encore une fois, je voudrais revenir là-dessus, parce que chaque fois ça me frappe. C'est cette espèce de hypertrophie d'une vertu qui, parce qu'elle est hypertrophiée, devient un défaut. C'est cela qu'il faut découvrir. Shehare Hassan Garia Betamid Khamim, puisqu'il a mobilisé des étudiants de la Torah, Ul Kaham Lamil Khama Mihirato, et il les a pris pour la guerre à cause de sa crainte. Veilu Lakah Haraoui Lamil Khama. S'il avait pris des hommes pour qui il est normal de faire la guerre, Raoul Amitrama, je ne sais pas comment traduire ça, je voudrais préciser plus, convenable à la guerre, homogène à la guerre, enfin des soldats, dans le sens hegelien.
Des guerriers?
Non, pas des guerriers. Des hommes pour qui ça va de faire la guerre. Mais quelqu'un qui est dans l'étude, ça ne lui va pas de faire la guerre. En Zechet, ça ne serait pas été une faute de prendre des gens Raoul Amitrama. Chez son primaranès, puisqu'on n'a pas le droit de compter sur un miracle. Abraham ne peut pas arriver sur le champ de bataille et dire « C'est moi Abraham, donne-moi la victoire. » Il faut qu'il ait une armée. Mais pourquoi une armée de Talmidei Chachamim? C'est ça que le Maharal met en évidence. Vous avez compris le problème. Abraham, la carte Talmidei Chachamim, mais il a pris des étudiants de la Torah. Moré chez Ouyare, ça montrait qu'il avait peur. Ben, il y a l'olitoire, beau. Or, il aurait dû avoir confiance en Dieu, Boïd Barar. Et ne pas prendre pour la guerre ceux qui n'étaient pas donnés à la guerre. Ça veut dire, encore une fois, scrupule exagéré. Peut-être je n'ai pas assez de mérite. J'ai peur que la promesse ne s'accomplisse pas parce que je n'ai pas assez de mérite. Je vais essayer de colmater ce manque de mérite. Là, ça dévoile que cette exagération de la vertu est en réalité une faille de la foi. Je pense que déjà nous sommes en plein dans la réponse du Maharal. Et peut-être que l'exemple que je donnerai, c'est de ce que j'ai étudié en psychologie, est assez évident. C'est parce que c'est une conduite qui est très proche de la conduite de foi, c'est la conduite de la modestie. Quelqu'un qui est modeste de façon exagérée, c'est sûr que c'est un orgueilleux. Vous avez compris cela? Qu'est-ce que vous voulez dire?
Est-ce que le fait des sculptures est admis dans la mine de la guerre, n'a-t-il pas provoqué une scission au sein du peuple juif? Parce qu'à ce moment-là, le soldat va se dire pourquoi.
Et provoquer. Oui, oui. Très bien.
Le Talmud va dire pourquoi est-ce que celui qui crie des mines n'est plus.
Exactement. C'est ce que j'allais dire. Exactement. Et par conséquent, provoquer la chute du gouvernement. Parce que les libéraux ne voteront pas avec la Goudat Israël. Et oui, c'est le problème. Okay. Alors, je reviens à l'analyse, mais nous l'avons eu avant-hier, ou il y a trois jours. C'est ceci. Ça dépend du genre de guerre. Si c'est les guerres de défense de l'existence d'Israël, il faut mettre les Talmid et Chachamim en première ligne. Parce que seuls les justes ont le droit de faire ces guerres-là. Et c'est le problème de la guerre, on en parlera peut-être un jour. La manière dont un soldat en guerre est jugé, c'était un jugement spécial. Et alors, s'il s'agit donc des guerres de l'existence d'Israël, la Gemara a tranché. Elle dit tout le monde, et on sort le fiancé et la fiancée de dessous le dé nuptial, de dessous l'arpa. Et on leur donne, aujourd'hui on dirait une mitraillette, en ce temps-là c'était une arbalète, mais ça non. Mais non, s'il s'agit effectivement de guerres qu'on peut gagner avec des soldats de métier, parce que ce n'est pas nécessaire que ce soit des guerres des justes, puisque ce n'est pas les guerres de l'existence, alors là, on n'a pas le droit d'enlever quelqu'un de l'étude de la Torah pour l'envoyer faire des milouim. Il fait ses milouim à la yeshiva. Vous comprenez? C'est clair. Et c'est pourquoi il y a deux positions dans les milieux religieux en Israël, ceux qui ne reconnaissent pas l'État d'Israël et qui ne veulent faire... comme un privilège de quitter la yeshiva pour aller faire les exercices, parce qu'ils défendent leur pays et leur peuple. Et vous avez deux milieux différents, vous devinez duquel j'appartiens pas. Et ce conflit est encore une fois un faux problème, parce que le vrai problème, c'est pas religieux ou pas religieux, c'est religieux qui admet l'État d'Israël, et considère donc que c'est un devoir, et religieux qui n'admet pas l'État d'Israël, et qui cherche tous les moyens pour se défiler. Et le problème, c'est pourquoi habite-t-il en Israël? Ça, c'est parce que dans la Torah, il y a une mitzvah qu'il faut habiter en Israël. Au moins, ils sont en Israël. Okay? Seulement, c'est un problème de parasitisme grave par rapport à l'État. Donc, les choses ne sont pas faites. Et alors, je me souviens d'un discours de Moshe Dayan sur ce problème, quand il était chef d'État-major, et où il avait mis les points sur les i à peu près de cette manière. Alors, vous savez très bien, Moshe Dayan n'était pas rabbin du tout. Je ne sais même pas s'il mangeait caché, je crois. Et il a dit de façon très claire, il y a des juifs qui sont mobilisés dans leur école. Ce sont ceux qui sont capables de devenir Talmid Chacham. Ceux qui vivent en parasite dans une école talmudique et parce qu'ils ne veulent pas travailler, ça c'est une autre histoire. Ceux-là, il faut les envoyer à la guerre, comme les autres juifs. Vous avez compris? C'est pas la même chose. Par exemple, vous avez dans un pays moderne comme la France, des gens qui sont à la recherche scientifique et qu'on mobilise dans leur métier. S'il y a la guerre. Eh bien, vous avez en Israël des gens qui sont dans la recherche scientifique de la Torah. Ils sont mobilisés dans leur métier. Qui? Ceux qui sont capables d'être vraiment des hommes de la Torah. Ceux qui passent leur journée et leur nuit avec un livre entre les mains et à chanter ce qu'il y a d'écrit, au lieu de le comprendre, cela, c'est un autre problème. Je pense que c'est assez clair. Bon, qu'est-ce que je veux dire?
Mon mandat, c'est qu'il y a des niveaux de guerre. Il y a guerre ou pas guerre?
Oui.
S'il y a guerre, il faut qu'elle s'en survive, ou alors la guerre n'est pas
possible. Oui, ça, c'est. En tout cas, dans un pays comme Israël moderne, c'est au Parlement et au gouvernement et à l'État-major de le dire. Il n'y a qu'eux qui sont compétents. Et quelles que soient, encore une fois, les opinions du peuple israélien, qui, comme vous le savez, est un peuple à démocratie exagérée aussi, parce que les juifs sont exagérants. Mais finalement, il y a l'état-major. C'est le problème. Et en général, nous essayons, chaque fois que ça arrive, d'écouter les radios arabes, parce que c'est eux qui nous renseignent sur la gravité du problème. Je veux dire, ça, il faut bien prendre garde à cela. Je vais vous citer Yitzhak Navon, qui n'est pas du tout suspect d'être droitier. Je ne sais pas s'il est gaucher, mais enfin, il n'est pas droitier. Et qui a dit un jour, j'ai assisté en recevant le corps diplomatique du monde entier, il leur a dit, je suis le président de l'État d'Israël et je comprends l'arabe. Et c'est un grand hébraïste. Il leur dit, c'est Yitzhak Navon, tu vois. C'est un nom arabisant, ok. Et, et il a dit, moi j'écoute les radios arabes, j'écoute ce que les arabes disent, et je crois ce qu'ils disent. Il ne faut jamais mépriser l'adversaire, il faut croire ce qu'il dit. Et, seulement les juifs sont tellement utopistes qu'ils disent, mais non, il ne sait pas ce qu'il dit, mais c'est méprisable, c'est méprisant de dire de l'arabe qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Il sait ce qu'il dit. Je vous donnais une comparaison. C'est Mein Kampf de Hitler. Personne n'a voulu croire ce qu'il avait écrit dans Mein Kampf. Et c'est pourtant ça que Hitler a décidé de faire. S'il n'y a pas, il n'y a pas réussi, c'est pour d'autres raisons. Voilà donc pour répondre à ta question. Bien. Alors on peut peut-être continuer le texte. Voilà Rabbi Abba. Veillou, la carrière. Oui, où est-ce que je suis arrivé? Alors, les Fichards. Ou Fichards, et c'est pourquoi. Ishtabed ou Bana ont été asservis ses enfants avant Meotchana 400 ans chez Yerouhou Rotar Vacher Asa, de telle sorte qu'ils voient la vaillance de Dieu qu'il a fait dans l'Égypte. Vous basez Knou et Mouna Shlema. Et par là ils acquièrent une foi totale. Mouchmuel Sauver, ça c'est la première opinion. Vous voyez donc, je refais un peu le raisonnement assez rapidement, et c'est ceci. Va se dévoiler dans l'identité d'Israël ce risque d'une difficulté à croire que les promesses que Dieu fait à Israël s'accompliront parce qu'elles sont invraisemblables. Elles sont invraisemblables parce qu'il s'agit d'une histoire où il faut exister en dépit de l'opposition de l'humanité entière. Et dès le début, Israël se connaît comme ça. Alors c'est invraisemblable. Et pour qu'on ait la preuve dans l'expérience, la preuve expérimentale, concrète, que c'est possible, alors on va vivre cette histoire de survie dans l'exil, c'est-à-dire dans les conditions où n'importe qui disparaîtrait, on va avoir l'expérience qu'on ne disparaît pas. Alors peut-être, c'est moi qui ajoute peut-être, ça va nous donner à penser que Dieu sait ce qu'il dit lorsqu'il nous fait des promesses en tant qu'Israël, grosso modo fréquent. Et où on va déceler ça? À la racine même, dans une des conduites d'Abraham, où on voit que cet homme de foi un scrupule exagéré. Alors, ça veut dire que la descendance vit dans l'existence ce qu'a été le comportement dans la vertu du patriarche. Mais encore une fois, au niveau du patriarche, c'est évidemment une vertu d'humilité, un scrupule, mais exagéré. Donc ça dévoile une faille d'identité. Je crois qu'on pourrait reprendre le raisonnement de mille manières. C'est le même raisonnement que le Maharal. Alors j'avance l'opinion de Shmuel. Shmuel Sauver. Et Shmuel dit, Dehen Lomar, Shaya Abraham, Haz Shalom, Shmuel va penser qu'on ne peut pas raisonner comme Rabbi Abahu, le raisonnement précédent. On ne peut pas dire Dieu préserve Haz Shalom. On peut traduire autrement Haz Shalom. Dieu préserve, mais bon. Et Nobote Arbuit Barak, que Abraham n'a pas confiance en Dieu. Shumati le Torah Abab, que Dieu sauve, c'est ce qu'il aime. Chez Zerachot Lomar. Là, c'est difficile à dire, que ce n'est pas là qu'était la faille, va dire Shmuel. On ne peut pas dire qu'Abraham n'était pas capable de savoir cela, que Dieu intervient pour sauver ceux à qui il a fait alliance de promesse. Avanachet, mais que la faute, Shéamar Bamaeda, était d'avoir dit en quoi je saurai, en quoi je serai sûr, quand Dieu lui a promis la terre, vous vous rappelez? Et que Abraham demande, c'était chapitre 15, verset 8, je crois, Mama et Darki Rachena, en quoi je saurai sûrement que j'en hériterai de cette terre. Renzi Mirubitachonella, c'est pas un manque de confiance en Dieu colcard tellement qu'il a basé la tête au Arès, car cette chose de lui donner la terre, j'ai matana, j'ai maloïske, qui est un don, peut-être il ne le méritera pas. Et regardez la dialectique du terme contre le maval. Le fait de donner la terre, qui est un don, peut-être qu'il ne le méritera pas. Mais un don, ça ne se mérite pas. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire qu'il faut mériter préalablement celui à qui le don est donné comme don. Peut-être que sa descendance, d'après le contexte, c'est très clair, peut-être que sa descendance ne méritera pas d'être ce à qui cela est donné. Et là, il y a tout un problème pour lui-même. Je reprends un peu brièvement cette expression, peut-être nous en avons parlé une fois, qui encombre les discours juifs, en tout cas en français, la terre promise. Cette expression de la terre promise n'existe pas dans aucune tradition biblique. C'est la terre donnée. Et la haaretz asher natati, la terre. Il n'y a nulle part écrit que Dieu a promis. Il a écrit partout qu'il l'a donné. Et il a juré de la donner. Juré, pas promis. Hachem Nishba. Oui, ça, ça vient de la stratégie antisémite. Cette terre, elle vous est promise. Eh bien, attendez qu'elle vous soit donnée quand vous la mériterez. Sur un plateau d'argent. Fût-ce le plateau du Golan. Okay. Et il y a toute une dialectique dans les commentaires. Que la mentalité des goïms parlant du droit à la terre d'Israël parle d'un droit de promesse. Et ça veut dire, attendez que Dieu vous la donne. Est-ce que c'est clair? Ça fait partie de la mentalité théologique des goïms que ce que Dieu promet, il le donne en grâce. Alors que, pour la théologie juive, ce que Dieu donne, il le donne à qui le mérite. Et là, je suis un petit peu gêné par le vocabulaire, mais je reprends l'analyse. Je vais vous donner une image. Les peuples du monde savent qu'il est écrit 1000 fois dans la Bible que cette terre appartient à ce peuple. Et je crois que c'est le cas particulier de l'histoire universelle où il y a une pièce qui fait foi. Pourquoi? Parce que l'humanité entière croit dans ce livre-là, par croyants interposés, que ce soit les chrétiens ou les musulmans ou les humanistes. Que s'il y a une trace, qu'il y a un lien de mérite, de droit aussi, entre un peuple et une terre, c'est le peuple juif et la terre d'Israël. Et à ce niveau-là, le problème, c'est pas par où passe la frontière. Le problème, c'est le problème entier du lien entre ce peuple et cette terre. Et d'autre part, dès qu'on prend connaissance de la querelle, de la contestation, la chrétienté réclame que c'est sa terre sainte. L'islam réclame que c'est sa terre sainte. C'est des réclamations. Mais ils savent premièrement que s'il y a un acte quelque part de lien entre un peuple et la terre, c'est celui-là et cette terre-là. Seulement, ils disent, attendez que Dieu vous le donne en cadeau. La contestation, c'est pas que cette terre nous appartient, c'est qu'on la prend à certains moments de... C'est clair. Bon. Et alors, c'est pourquoi Rashi s'occupe de ce problème dès le commencement de son commentaire. Je n'ai pas le temps maintenant, mais je vous renvoie au premier commentaire de Rashi sur le premier verset de la Torah. Où Rashi dit ceci. L'objection des nations contre Israël, c'est pas que la terre d'Israël appartient à Israël. Ça, ils savent que Dieu l'a lui a donné. Et c'est pourquoi la Bible a été mise par écrit pour que les goïms la lisent. Disent les sauts de Rachid. La vraie raison pour laquelle on a mis ça par écrit, pour qu'il la dise. Okay? Parce qu'on n'avait pas besoin de livre. Et seulement, ils le savent, donc c'est écrit 1000 fois dans le livre auquel ils croient que cette terre, c'est la terre de ce peuple. Ce qu'ils objectent, c'est, je vous dis la phrase que cite Rachid du Midrash, l'estimatem chez Kabashtem Arzot Shuahamim. Vous êtes des brigands. Parce que vous avez pris par conquête la terre des sept peuples. La terre des sept peuples, c'est les sept peuples fondateurs de la Ligue. Et quand, en 48, c'était comme ça, ils étaient sept. Maintenant, ils sont 22. Et alors, l'argument, je le reprends en hébreu et je le traduis, c'est pas vous prenez une terre qui n'est pas la vôtre. C'est pas ça. L'argument, c'est que vous la prenez par la force. L'estimatem, vous êtes des brigands parce que vous avez conquis la terre des sept peuples. Et alors Israël doit leur répondre, d'après la suite du Midrash que cite Rashi, toute la terre est à Dieu qui l'a créée, et il la donne à qui il la donne. Je paraphrase un peu en schématisme. Alors, où est le véritable débat, encore une fois? D'ailleurs, historiquement, on ne peut pas ne pas se rendre compte que si, finalement, la SDF a enregistré la déclaration Balfour, c'est parce que les Britanniques lisaient la Bible et que les ministres d'Angleterre ont dit, tout ça est dans les concis, dans les minutes, ont dit, mais c'est vrai, nous savons cela, que la Palestine, c'est les Juifs, ça nous savons. Pourquoi? Parce qu'ils lisent la Bible. Et alors, le véritable conflit vient de la mentalité théologique des goïms. Pour les goïms, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, ce que Dieu donne, il le donne sur un plateau d'argent, en grâce. C'est clair. Bon, je vais vous faire deux citations. Une de Victor Hugo, la deuxième, rappelez-moi, et une d'abord de la Bible. Si vous avez le livre de la Genèse, vous allez prendre le verset 28 du premier chapitre, où on apprend comment Dieu donne la terre à qui il la donne. Qui veut lire ce verset? Verset 28 du premier chapitre. Le verset 28.
Dieu les bénit en leur disant, au premier chapitre numéro 1.
Premier chapitre, oui.
Dieu les bénit en leur disant, fructifiez, multipliez.
Continuez.
Remplissez la terre et donnez-la, commandez aux poissons de la mer, aux
hommes de la terre,
et à tous les animaux qui se meuvent sur la terre.
Ça suffit. Alors, je vous le dis en hébreu parce que ça va le traduire quand même. C'est Milou et Taharet, remplissez la terre, Vechipshura et conquérez-la. Nos amis, dominez-la. Okay. Mais de toute façon, il s'agit de la conquête de la terre, pas des habitants de la terre. Parce que les autres habitants de la terre, c'est les poissons et les oiseaux. Voilà, là nous avons la formule par laquelle la Bible dit, et Rachid nous dit, c'est pourquoi ça a été mis par écrit, pour que les goïms le lisent. Quand Dieu donne la terre au premier homme, comment il la lui donne? Milou et Taharet, remplissez la terre, Vechipshura et conquérez-la. Et le Midrash récite Rachid, met exactement ce mot-là dans la bouche des goïms qui contestent Israël. Vous vous rappelez? L'istimatem chez Kabashtem. Vous êtes des brigands parce que vous avez conquis. Or, le mot de l'istime, c'est un mot qui vient du grec, qui est passé dans l'hébreu rabbinique, qui signifie des brigands. Aujourd'hui, on n'accuse plus Israël d'être des listimes. Il y a toute une liste de ça. Impérialistime, colonialistime. Mais c'est le même listime. Et avec quel argument encore une fois? C'est vrai que c'est à vous. Mais attendez que Dieu vous le donne en cadeau. Alors il faut qu'Israël puisse leur dire, vous savez lire ce livre. Regardez comment Dieu donne en cadeau ce qu'il donne en cadeau. Emplissez la terre et conquérez-la. Or, la difficulté de ce verset, c'est que l'ordre est inverse. Pour faire une conquête, on conquiert d'abord et après on remplit la terre qu'on a conquis. Vous avez remarqué ça, okay. Si on vient de l'extérieur pour faire la conquête, alors il faudrait que le texte dit, Kipchou et Taharet ou Milora, conquérez la terre et remplissez. Vous avez remarqué comment se sont faites les guerres d'Israël depuis le temps de la sortie d'Égypte. D'abord, la pénétration pacifique. Et s'il faut faire la guerre, on fait la guerre après. Et la guerre se fait toujours du centre à la périphérie. Alors que toutes les guerres de conquête, c'est de la périphérie au centre. J'ai compris que c'est net. Que c'est net. Bon, rappelez-moi maintenant pourquoi je vais citer ce Rachid. Ah oui, Victor Hugo, c'est dans La Légende des siècles. Je ne me rappelle plus dans quelle pièce. Où l'empereur, qui était Charlemagne, disait à un de ses barons, je crois que c'est Ganelon, d'ailleurs. Non, c'est pas Ganelon. Bon, vous allez reconnaître, je sais pas quelqu'un qui donne une ville qui s'appelle Narbonne. C'est qui? Très bien. Emery. Voilà, il y a fait. Et alors, je paraphrase sans doute, il dit voilà, Narbonne, je te la donne, va la prendre. C'est ça. Voilà. Alors c'est la même citation, hein, c'est le même verset. Si vous demandez à Victor Hugo quel verset, il vous dira 28. Pardon. Non, mais c'est surtout le comportement. Dis-le à toi, hein, prends. Et c'est là qu'est l'argumentation des goïms vis-à-vis d'Israël. Je pense que c'est très clair. Or, il ne s'est jamais agi de conquérir les peuples qui habitaient là-bas. Je dirais dans la Bible elle-même, le livre de Josué, mais déjà dans le Deutéronome. Et dans le Talmud, les tractations qu'il faut avoir avec les peuples qui occupent le pays et les éventualités qu'on leur propose. Et ce n'est que si ils font la guerre qu'il y a guerre. Et vous avez remarqué que c'est toujours comme ça. Et chaque fois, ça va du centre à la périphérie. Et jamais c'est allé de la périphérie. Bon, je referme donc là la parenthèse. C'était pour vous dire qu'il ne s'agit pas de terre promise, mais qu'il s'agit de terre donnée. Et en hébreu, c'est très clair, ça, la différence. La terre que je vous ai donnée. Alors, s'il y a un doute que cette terre nous appartient, c'est ça, le doute de la foi. Et ça, c'est l'explication de Shmuel. Il dit, c'est pas que Abraham était tellement quelqu'un qui croyait qu'il fallait avoir beaucoup, beaucoup de mérite pour être protégé dans la guerre. La guerre n'était pas la guerre de conquête du pays. Dis non, c'est autre chose. Il était quelqu'un qu'il croyait, enfin qu'il y avait un doute, qu'effectivement cette terre lui était donnée. Et c'est extraordinairement profond parce qu'il s'agit d'Abraham. Et que le doute de l'histoire, c'est entre deux descendants d'Abraham. Vous voyez donc, elle est là, la problématique. Mais je voudrais vous dire ce que je répète souvent. C'est que lorsque nous parlons avec des Arabes à Jérusalem, ça arrive rarement, mais ça arrive. Ils finissent par nous dire, quand le monde entier leur dit que cette terre leur appartient, devant nous, ils savent que c'est pas vrai. Mais quand les Juifs leur disent, ils commencent à le croire. C'est ça qu'ils vont bien comprendre. Ils vont essayer. Alors on revient donc à Shmuel. Où Shmuel sauver, d'en nomar, chez Abraham, chez Shalom, et non boté à Bruit Barar, chez Oumatin et Tohava, chez Zerachot, le Marabal, achet, mais la faute, selon Shmuel, chez Amar, Bamaeda, en quoi saurais-je, ven zemeu bitachon kolkar. C'est pas tellement un manque de confiance qui devra raser la tête ou arrêter chez Imatana, chez Maloïske. Parce que lui donner la terre, qui est un don, peut-être qu'il le méritera. Ou comment chez Lidoer le Marla, le Perek chez Lifnede, comme nous l'avons expliqué dans le chapitre précédent, je passe. Ou Firar Shaloto, c'est pourquoi il lui a demandé un signe. Abal Bitaron et Atsil et Toraval. Et la confiance que Dieu sauve, c'est ce qu'il aime, en sa fek chez Abotear, celle-là il l'avait. Ici le Marla reprend méthode habituelle d'explication. Chaque fois que nous avons différentes explications, c'est un faisceau d'explications qui sont valables tout ensemble, mais chacun, d'après son expérience, met l'accent sur telle ou telle dimension du problème. Chaque fois, vous remarquerez cela. Les amis, nous avons toujours un faisceau d'explications par trois dimensions. Parce qu'il y a trois dimensions d'identité, la mise à l'épreuve de l'identité. Une dans les rapports entre l'homme et Dieu, une dans les rapports entre l'homme et autrui, une dans les rapports entre l'homme et soi-même. Et de nouveau ici, nous avons Rabbi Abbaou, Shmuel et Rabbi Yochanan, avec le même plan, la même structure. On verra d'ailleurs tout à l'heure lesquels concernent quoi. Voyez donc quelle est l'explication du Maharal, et chaque fois avec la même analyse. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de punition par l'exil de tête folle qui serait un acte. Il s'agit d'une nécessité d'acquérir la foi lorsqu'un certain comportement dévoile une faille dans la foi. Et comment l'exil acquiert la foi. C'est cela qu'il faut surtout comprendre. Je sais pas, on est arrivé déjà un peu aujourd'hui, en clôture du séminaire. C'est, je prends maintenant, nous sommes sur l'exemple de Shmuel, je reprends le raisonnement que nous avons déjà vu. Il s'agit d'un doute que nous sommes chez nous sur cette terre, Israël. Alors nous allons être jetés ailleurs, jusqu'à ce que nous ayons l'expérience que nous sommes chez nous, nulle part, alors nous commencerons à croire que nous sommes chez nous, chez nous. C'est là l'explication du mal. Et je crois effectivement, c'est énorme, il y a un effet littéraire dans notre histoire qui est énorme. Je crois que cette histoire n'a encore jamais été racontée. C'est ce peuple qui est investi de toutes les promesses et qui a l'immense coquetterie d'être si modeste. Et je dis oui. Et alors, être condamné à une mise à l'épreuve pour arriver à coïncider avec soi-même. Je crois que c'est énorme comme figure. L'identité juive, c'est quelque chose d'inouï. C'est encore à décrire très, très probablement. Je ne sais pas qui avait employé cette expression, je sais que c'est assez contemporain, vous direz, l'expression le fou de Dieu. De qui est cela? Marie Calder, non. Mais c'est tout à fait ça. Le feu de Dieu. Il n'y a pas pire folie que ça. Je vous demande une petite abstaka, mais encore cette phrase. Chacun a le devoir de se dire, c'est pour moi que le monde a été créé. Tous les hommes sont capables de ça. Les juifs sont capables de mieux. Quand Dieu leur dit, c'est pour toi que le monde a été créé, le juif qui dit au créateur, tu es sûr? C'est ça le bail. Bien, on revient dans 10 minutes. D'ici, passion. Il nous reste à peu près un quart d'heure. Je vois qu'on a fait finalement très peu de textes, mais je pense que malgré tout, cette semaine nous avons été assez probitables sur ce thème, en tout cas. Alors je propose que pour le quart d'heure qui nous reste, les 20 minutes, mais pas plus, parce que j'ai encore une réunion après, je vous donne la parole si vous avez des questions, bien entendu, sur le sujet, parce que si ça déborde trop, il faudrait trop de vocabulaire de nous. Donc vous avez la parole.
Vas-y. Je peux prendre ? Vas-y. Dans le texte qu'on a étudié, la promesse que, enfin la promesse, quand Dieu a dit Yadoa Tedin, Avram s'appelait Avram et pas Avraham. Alors, ma question, ou je ne sais pas si c'est une question, est-ce que le ré supplémentaire qui a été ajouté après n'est pas, comment on sait que Yudke Vavke, il y a les deux ré, et ces deux ré sont une manière cachée puis une manière dévoilée, est-ce que le ré de Avraham n'est pas une manière de force pour supporter l'exil à Doyamazé?
Oui, en fait, la réponse que tu donnes dans l'hypothèse est un peu trop formelle. Il faudrait trop de temps pour recoder cela. Simplement, je vous cite la référence. C'est le Yud de Sarai qui a été divisé en deux et un pour Sarah, un pour Abraham. Et ce Yud est resté en suspens jusqu'au temps de Josué, qui s'appelait d'abord Hoshea, et qui, avec ce Yud, s'est appelé Yehoshua. Mais il faudrait trop de temps pour expliquer ça. Je reviens au début de la question. Vous pouvez comprendre la différence entre le nom Abraham et le nom Abraham. Le nom Abraham, c'était le nom d'Abraham lorsqu'il était en exil à Orkazdim. Le Talmud, vous avez entendu la différence des deux noms, Abraham, Abraham. Le Talmud, dans la fin du premier chapitre de la Maseret Brachot, explique la différence de la manière suivante. D'abord, Abraham, c'est le même homme, Abraham, Abraham. D'après un des premiers versets des chroniques d'Ibrahimim, Abraham, ou Abraham, Abraham, lui qui est Abraham. Après cette expression, le Talmud dit, Abraham était d'abord le principe de Aram. Av, les Aram, père de Aram, principe d'identité de Aram. Ulbasov, et enfin, comme il a été, comme dit le verset, Ab, Hamon, Goïm, le père d'une multitude de nations. Je reviendrai, rappelez-moi d'expliquer la fin, père d'une multitude de nations d'après le verset. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que d'abord, cette identité, et vous verrez que c'est au chapitre 14, qu'Abraham est appelé Abraham l'hébreu, Abraham à Ivry. Et encore qu'il s'appelait Abraham, lorsqu'il était en exil, le texte l'appelle Abraham l'hébreu. Ça veut dire que cette identité hébraïque, lorsqu'elle est dans l'exil de la civilisation de Ur-Kasdim, s'appelle araméenne. Je vous donnais simplement une comparaison. Dans notre temps de civilisation, les Hébreux en exil s'appellent les Juifs. Au temps de la civilisation de Ur-Kasdim, les Hébreux en exil s'appelaient les Araméens. Est-ce que c'est clair? Donc l'identité araméenne, c'est l'identité hébraïque en exil. Or, quelle est la différence? Dans l'exil, en tant que Aram, c'est apparemment, je dis bien apparemment, une parmi les nations. Il y avait une spécificité, indice de spécificité, d'une identité particulière parmi les autres. Il faut dégager l'identité hébreu de cette langue trop spécifique pour qu'elle puisse être haussée à l'échelle de l'universel Avraham Goyim, d'Abraham à Abraham. Et donc, ça se relie à la question de David, en ce sens, c'est que d'où venait, de quoi était corollaire, la difficulté d'entendre les promesses qui concernent l'hébreu dans son indice d'identité universelle. C'est cette spécificité trop grande de la coquille d'identité en exil. Est-ce que c'est suffisamment clair ce que j'ai dit? Je vais l'expliquer tout de suite. Les juiveries ont été les juiveries de telle nation particulière. C'est trop spécifique, c'est trop spécial. L'hébreu est à l'échelle de l'humanité tout entière. Prenez un exemple clair au niveau de ce vocabulaire. C'est que, au niveau de la nation hébraïque, nous avons été les Hébreux un point. En tant que juifs, nous n'avons jamais été un juif un point. Il y a le juif à l'état pur, ça n'existe pas. Il n'y a que des judéos, quelqu'un d'autre. Un juif algérien, c'était ma racine d'identité juive, c'est très spécial. C'est le juif d'Algérie. Et encore, en Algérie, il y avait trois départements. Constantine, c'est pas Alger, qui n'est pas Oran. À Oran, il y avait 17 communautés, et c'est pas n'importe laquelle, celle de ce quartier là-bas, et demandez-moi la rue. Bon. Ça veut dire que... Et vous savez que c'est comme ça chez tous les juifs. Ça veut dire que le juif est à une gangue de juiverie très très spécifique. Il faut faire éclater ça pour que les promesses puissent être entendues par l'oreille hébraïque. Pour que Abraham devienne Abraham. C'est clair jusque-là. Et effectivement, ce genre de nom est corollaire du fait que Abraham arrive à entendre la promesse. Le verset c'est Ve'emin Bashem, Va'eshev Arnout Tzadaka. En fin de compte, il a fini par avoir confiance, croire dans ce que Dieu lui dit. Et alors là, il s'appelle Abraham. Et puis après, c'est des têtes. Donc, oui.
L'expérience est un homme très périlleux.
Laquelle, l'expérience?
De l'exil et de faire sortir cette gang.
À qui le dites-vous?
Alors, sans aucune question, est-ce que Dieu a estimé le...
Eh bien, c'est ça le problème qu'on a étudié pendant une semaine. Lui, c'est nous qui doutons. C'est ça le fond du problème.
Oui, mais qu'est-ce qui va se passer?
Je veux dire, écoutez, espérons que l'hécatombe est déjà en arrière. Ouais. Plus il y a de foi, moins il y a d'hécatombe. Moins il y a de foi, plus il y a d'hécatombe. Et là, je vais vous raconter un midrash. Vous vous rappelez du rêve de Jacob avec les chaînes des anges? Alors, il y a plusieurs midrashim, parce que la structure de ce rêve est très très multiple. Mais tous les midrashim sont basés sur le fait que le verset est très paradoxal. Et Jacob a vu des anges monter et descendre. Alors que normalement, il faudrait voir des anges monter. Bon, ça c'est un rêve juif. Et alors, un des midrashim dit que Jacob a vu les anges tutélaires des grands empires que son peuple devait traverser, monter et descendre. Alors il voit l'ange de Mitzrayim monter et redescendre, il est tranquille. Ensuite il voit l'ange de Babel, le deuxième exil, monter et descendre, tranquille. Après il voit un ange, qui est celui des Ahus, monter et ne pas redescendre. Alors il a peur. Et c'est pourquoi Dieu dit, n'aie pas peur Jacob, ça c'est un verset du prophète Isaïe. Altira, Abdiya, n'aie pas peur, mon Seigneur Jacob. Il dit, comment j'ai pas peur, il n'est pas descendu. L'ange des Ahus. Et alors Jacob, Dieu dit à Jacob, monte le faire descendre. Dès que Jacob monte, les Ahus descendent. Seulement, ils font monter. Bon, c'est par hasard que ça s'appelle Aliyah. Et alors, le problème, c'est le problème de Jacob. C'est la troisième chance, c'est le troisième patriarche. Si jamais il échoue, c'est fini. Alors il se prépare. Il a le temps d'être sûr de monter. On a mis 2000 ans pour ça. Qu'est-ce que vous dites? Mais il est certain que si Jacob avait eu le courage de monter tout de suite, il serait monté tout de suite et l'autre serait redescendu tout de suite. Et un jour, j'ai eu cette image et je me souviens très bien d'un très long article de Moshe Dayan, d'ailleurs il y a quelques années avant sa mort, qui était intitulé par ce verset « Altira Adiyah ». Ça veut dire... Et il expliquait que ça veut dire n'aie pas peur, mon serviteur Jacob. Ça veut dire deviens Israël. N'aie pas peur, on veut devenir ça. Jacob devint Israël, Esaü descend. C'est donc lui. Et je vais terminer ça avant d'oublier. Et j'ai une fois employé cette image. Je me suis demandé pourquoi les juifs pieux se balancent. C'est simplement une image. Parce que voilà, là. la tradition, le sens traditionnel pour dire tradition, c'est halakha. Et halakha, ça veut dire la marche, à lire. Alors, si on est sur place, et on dit je marche, on finit par là. C'est compris. C'est ça la préparation de Jacob. Oui, quelqu'un qui monte des escaliers. Alors il met la main sur la rampe, et pour être sûr d'attraper la rampe, il met la deuxième main sur la rampe, il dit je monte. Alors c'est ça la fédération sioniste à Paris. Qu'est-ce que vous avez dit? Attends une minute, chacun son tour, il a une minute. Je crois qu'on est à l'achèvement du temps de Joseph et au commencement du temps de Judas. C'est-à-dire, le travail de Joseph est enfin achevé 2000 ans. Et maintenant, les Juifs redeviennent les Hébreux. C'est le temps de Judas. C'est clair? Oui, madame. Non, mais justement, c'est ce que je dis. La difficulté, c'est pas la bonne foi des Arabes lorsqu'elle s'exprime. Oui, justement, la difficulté, c'est les Juifs. Mais c'était notre sujet. Qui doute les Juifs? Qui doute des promesses de Dieu? Les Juifs.
Dans le pays même.
Dans le pays même, oui. Mais vous savez, les Israéliens sont d'origine juive. Et c'est ce que je dis souvent, nous avons les défauts et les qualités des Juifs. Et c'est extraordinaire parce que, encore, quand un Juif doute et qu'il habite là où il habite, bon, c'est un peu gratuit, c'est pas lui qui est sur le front. Mais quand ce sont les Israéliens qui, si le lendemain, ils reçoivent leur carte militaire, vont aller au front, parce qu'ils y vont, hein, ceux-là même qui se disaient peut-être ce pays appartient aux Arabes, c'est vertigineux comme acte de foi. Vous comprenez? Et alors, c'est ce que disent les... Je vais vous parler, vous savez, ces dialogues sont très rares entre Juifs et Arabes. Mais à Jérusalem, il y a des Arabes pieux et des Juifs pieux. Il arrive qu'on se parle pieusement. Et alors, ça revient très souvent, en fin de compte, après Joseph.